Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
Depuis le studio 611, une émission réalisée par Anne-Sophie Ladonne, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Kevin Pelot.
Au sommaire cette semaine, les voix de l'accueil et les voix du front.
Moi je vais vous dire, ce qui m'énerve c'est que j'ai bataillé pendant un an et demi avec la maladie de mon mari, qu'on n'avait aucun droit, et qu'aujourd'hui, eux, tout leur est donné.
Tu es dans la rue. Après plusieurs jours de queue, menacé par les forces de l'ordre, tu accèdes à la bulle. Tu as un entretien. Lance les dés. Père, tu accèdes à la halle. Impair, tu retournes en case 14.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits?
Ouf, fini l'élection de Trump. Nous allons enfin pouvoir parler de ce qui se passe ici et plus des fantasmes de reconquête vendus à un peuple lessivé par des décennies de politique néolibérale. Fini les délires de murs pour bouter les parasites hors du rêve national. Les États-Unis ont donné les clés d'un système qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres à un milliardaire de télé-réalité qui réussit ce tour de passe-passe en désignant encore une fois l'étranger comme parfait bouc émissaire. Fini, je vous dis, nous allons enfin pouvoir s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Or, en France, on entend à peu près les mêmes mots chez les électeurs. Ras-le-bol, faut essayer quelqu'un qui n'est pas dans le système. On est chez nous, c'est la complainte de ceux qui se sentent tout seuls et qui ont peur, ceux qui se sentent oubliés et prêts à se donner à qui ramènera de l'ordre. C'est cette front nationalisation des angoisses que Charlotte Perry nous fait écouter de près en retournant à Beaucaire pour un portrait de famille convaincu dans une ville FN. Alors Antoine Chao, lui, nous fait entrevoir une réalité tout autre. Porte de la Chapelle, dans la bulle, le dispositif de premier accueil où se retrouvent demandeurs d'asile et ceux qui les aident, ceux qui regardent la réalité en face et tentent de la changer plutôt que partir dans des envolées morales qui n'ont de plus de prise depuis longtemps contre la lepénisation des esprits. Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court entre fantasmes et réalité, ici c'est pas l'Amérique, on est chez nous.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil, comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Deuxième tour des élections municipales.
La gifle, la raclée, la déroute, la bérésina.
Victoire du Front National à
Ayon, Jean-Moselle, Beaucaire, Cogolin, Béziers
et Fréjus.
Près de 1200 conseillers municipaux frontistes élus.
10 villes au total pour le Front National.
C'est bien de vagues bleues marines qu'il faut parler.
Il y avait eu le 21 avril 2002, il y aura désormais le 25 mai 2014.
Victoire historique du Front National hier aux élections européennes.
La poussée du FN qui devient donc le premier parti
le
du pays avec 25% des voix.
La première fois dans l'histoire de la 5e République que l'extrême droite en France arrive en tête d'une élection.
Le FN peut revendiquer le titre de premier parti de France en tête dans 6 régions.
Ces élections ont incontestablement été un grand succès. C'est une nouvelle confirmation d'un phénomène dont chacun doit prendre conscience. Le vote FNRBM est maintenant un vote d'adhésion.
Près de 7 millions de voix au second tour des régionales, 25 aux élections européennes et un discours politique qui a contaminé non seulement l'ensemble de la droite française, mais aussi toute une partie de la gauche qui triomphe outre-Atlantique et prospère partout en Europe. Marine Le Pen peut bien se défendre corps et âme d'être à la tête d'un parti d'extrême droite, lisser son discours et répoliner la façade du front pour la rendre présentable. Le fait est que le racisme et la xénophobie sur lesquels le FN s'est construit continuent d'être le ciment qui unit ses électeurs, qui tient les murs de la maison. Car oui, on vote Front National avant tout parce qu'on adhère à ses idées. La différence aujourd'hui, c'est qu'on ne s'en cache plus. Dans cette France des oubliés, des mises au banc de la société, mais aussi de la politique, on est même fiers de soutenir Marine. Ni des nazis, ni des fascistes, seulement un grand désespoir qui fait voir tout en noir. Et à cela, il faut un coupable. Alors pour essayer de comprendre ces fractures françaises, on est allé rencontrer Sabrina, à Beaucaire, dans l'une des 11 villes conquises par le FN en 2014. On l'a rencontrée et on l'a écoutée.
À 30 ans, Julien Sanchez est devenu samedi le deuxième plus jeune maire français du Front National, après David Rachline à Fréjus.
Situé au bord du Rhône, face à Tarascon, cette ancienne cité gallo-romaine est chargée d'art et d'histoire. Du haut de sa forteresse du Xe siècle, admirez la ville aux belles pierres, capitale de la terre d'Argence.
Bienvenue à Beaucaire.
Merci, M. Sanchez.
On est dans le centre-ville de Beaucaire, sur les hauteurs de la ville, pas très loin du château. Et on arrive Voilà, c'est là une grande porte cochère rouge. Ah, bonjour. Enchantée.
Sabina. Allez.
Bonjour.
Bonjour.
Ma maman et ma fille.
Bonjour madame.
Il fait pas trop chaud, hein? Tu veux faire du coloriage? Oui. Viens, mets-toi sur la petite table de salle, maman. Viens, mon petit cœur. T'es sage. Vous voulez peut-être un petit café?
Oh, ça va aller, merci. Ouais.
T'es comme vous voulez. Hein. Jeanne, tu fais pas de bruit puis tu vas s'attirer mon cœur.
Je peux vous demander comment vous appelez?
Sabrina Berquet, 36 ans, femme de chambre dans un hôtel sur Fontvieille.
Ça fait longtemps?
Non, ça fait quelques mois.
Avant vous faisiez quoi?
Au chômage. Et après que de l'intérim. Et
du coup maintenant vous avez un contrat longue durée?
Non, pas encore. Non, toujours du temporaire. Moi, j'ai toujours voté Front National. Hein. Après, c'est pas du racisme, hein, qu'on l'entende bien. C'est un ras-le-bol. C'est la peur pour nos enfants plus tard. Aujourd'hui, je comprends pas qu'il y ait des millions d'SDF qui dorment dehors, alors que les migrants, ils arrivent, ils ont tout. On a failli nous-mêmes nous retrouver à la rue parce que mon mari a fait des AVC. Je suis passé au tribunal pour expulsion, quand même. Parce que mon mari avait pas de salaire. Moi, je suis tombée en fin de chômage. On n'a rien fait pour nous aider. Je comprends pas qu'on puisse pas aider d'abord nous, Français. Et après, s'il reste, ouais, ça sera pour le reste. Moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de m'acheter une maison. Ils viennent en France. Ils arrivent à se payer des maisons quand même là-bas au Maroc. Ils vont se taper la retraite au Maroc. Ils ont une maison et tout. Et nous, ben non. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est un ras-le-bol. Moi, je vais vous dire, j'ai peur pour ma fille aujourd'hui. Je sais pas ce que l'avenir va lui réserver. Vous vous rendez compte que mon mari, il est malade et tout. Il est même pas encore à la retraite. Il va faire 62 ans.
Et là, il peut plus travailler?
Non. Alors, on se balade entre les médecins. On a fait quand même une guerre de 1 an, quand même, avant qu'il soit en invalidité. Donc, sans ressources.
Et du coup, vous en êtes sorti comment?
Eh ben, j'ai travaillé les nuits, j'ai fait de l'intérim, j'ai mes parents, j'ai ma famille, heureusement. Mais on s'en est sortis et ça va dans le bon chemin, quoi.
Vous vivez avec combien à peu près par mois?
Là, 1200 euros pour tous les trois. Quand vous comptez après un loyer à 900 euros, j'ai l'électricité, l'assurance voiture pour aller travailler, le gasoil. J'ai une petite fille qui veut que j'habille. Et j'ai 300 euros d'APL. Même pas 300 euros, et je les ai que depuis ce mois-ci, les 300 euros d'APL. On s'ébrouille tout seul. Voilà pourquoi un ras-le-bol et pourquoi le Front National aujourd'hui.
Trop de temps perdu depuis des décennies. Trop de fausses alternances, trop de manque de courage. Le pays n'est pas gouverné, il est abandonné.
Chers compatriotes, la France est en danger. Partout des quartiers brûlent, entre les mains de délinquants toujours plus organisés. Partout des laissés pour compte, partout des foyers disloqués et déstructurés. Des clandestins, des étrangers, vous en avez assez. Stop à la décadence. Les élections présidentielles sont enfin l'occasion de redresser définitivement notre pays. Voter est un devoir. Si vous ne le faites pas, l'immigré le fera pour vous, redessinant l'âme de notre vieille et belle patrie.
Déjà avant, vous votiez Front National, oui. Depuis le début, vous en
mais
avez
ça,
ravol.
Ça a été une éducation quand même. Mes parents ont toujours voté Front National. Après, aujourd'hui, j'ai mon mari vote Front National alors qu'il était socialiste.
Ah
bon? Eh oui. Et ben, il a changé quand il voit aujourd'hui ce que ça donne.
Ça fait longtemps qu'il a changé.
À Monsieur Sanchez, il a voté Front National.
Pour le maire, ouais.
Voilà.
Comment pouvez-vous assumer d'accueillir des centaines de milliers de clandestins qui sont à notre charge, et avec quel argent surtout?
Monsieur Sanchez, merci pour cette question.
C'était ta première fois, Front National, à Sanchez.
Bienvenue à Beaucaire.
Vous allez lui parler, il est à l'écoute, quoi.
Ville d'arrêt d'histoire de 16 000 habitants, Beaucaire a un patrimoine remarquable.
Il fleurit tout, il a remis des petits commerces dans le centre-ville, quand même. Il fait pour sa ville et ses habitants.
Le maire est chargé dans sa ville de veiller sur la tranquillité publique de ses habitants dans le cadre légal.
Même niveau sécurité, ça a tout changé, quoi.
Nous ne sommes plus dans un état qui garantit la sécurité et la tranquillité publique de ses habitants.
Est-ce que c'est une ville où il y a de l'insécurité à Beaucaire?
Avant qu'il passe, oui. Je me faisais accoster avec ma petite pour un morceau de shit. Aujourd'hui, on ne me le demande plus.
Je refuse que les rues de Beaucaire soient une zone de non-droit. Elles ne doivent pas être une zone de non-droit.
La sécurité.
Et tout à l'heure, vous disiez que vous vous inquiétez pour l'avenir de votre fille.
Oui. Ça, c'est la première chose qui m'inquiète. Je me dis, si nous, déjà, on n'y arrive pas maintenant, comment ça va faire pour elle plus tard? Pour ça, pour le travail, moi, je suis pas d'accord, quoi.
La préférence nationale, c'est la priorité donnée à un national d'obtenir l'accès à l'emploi en priorité sur l'étranger. C'est ce qui se passe en Suisse, personne ne les traite de fascistes jusqu'à nouvel ordre. Hein.
D'abord, on fait travailler les Français et après...
Nous, c'est les Français d'abord.
Le reste.
Les Français d'abord.
J'ai travaillé dans les pommes et tout. Nous, on va demander 9,27 de l'heure, eux, ils vont nous en demander 7. Bah ouais, bah qui c'est qu'on va prendre? On va prendre ceux qui demandent moins. Sauf qu'eux, ils vont travailler le samedi, le dimanche. Jour, nuit. Que moi, non, je peux pas. Et je travaillerai pas pour 7 euros de l'heure. Aujourd'hui, bah ouais, eux, ils peuvent se permettre, ils sont logés dans des poubelles pour rien. Et ça leur plaît. Mais moi, non. Déjà, on refermerait certainement les frontières, je pense que ça arriverait moins. Chacun chez soi.
Sans frontières, il n'y a ni protection, ni sécurité possible.
Ouais, j'ai peur pour elle, pour la sécurité, pour tout. Moi, je vais vous dire, il n'est pas question qu'elle fasse un kilomètre toute seule. Hein. 500 mètres même pour aller à l'école toute seule. On vit dans un pays où il y a l'insécurité.
La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire.
De derrière sa lunette usée, il pense que la vie n'est pas si facile. Qui voudrait retomber en enfance, du temps où la seule de ses peurs était à ne pas savoir qui se cachait sous son lit.
On vit dans un pays où il y a l'insécurité.
Nos peurs se précisent avec l'âge, comme le suspense au fil des pages d'un livre où le poids de l'argent a écrasé celui de la vie, d'un livre où tous les honnêtes gens s'en vont cacher sous leur lit leurs économies.
C'est de l'abus.
Ils disent, méfiez-vous surtout des petites bandes et faites confiance à nos grands groupes. Tous les policiers vous défendent en se cachant au bord des routes. Ayez peur de tout sauf de nous et faites attention à vos sous. Y'a un étranger derrière vous.
Moi, je vais vous dire, j'ai peur pour ma fille aujourd'hui. Je sais pas ce que l'avenir va lui réserver.
Sécurité s'est métastasée dans l'ensemble de la France. Il n'y a plus un seul village aujourd'hui où on laisse la porte de la maison ouverte.
De derrière sa lunette usée, il pense que la vie n'est pas si facile. Qui voudrait retomber en enfance, du temps où la seule de ses peurs était de ne pas savoir qui se cachait sous son lit.
Elle a quel âge, votre fille?
8 ans.
Et vous voudriez quoi pour son avenir?
Qu'elle ne soit pas comme nous en train de galérer, déjà. Je ne lui demande pas non plus de faire médecin, mais qu'elle ait une bonne place, quoi. Qu'elle y arrive et qu'elle monte tout, quoi. Hier, elle m'a dit, maman, je veux être coiffeuse. Fais coiffeuse, si ça te rapporte. Moi, mes parents, ils ont eu des sociétés. Ma mère, elle était pleine de bijoux, maquillée, coiffée. Le luxe, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Mais mon mari aussi, il a connu ça. Il avait le camping il y a quelques années en arrière. Et après, il a pris le chemin de l'usine.
Le chemin de l'usine?
Oui. Oui, électromécanicien. dans les usines et sur locomotive.
Dans l'univers de l'argent roi, les petits, les misérables, et tous ceux qui subissent en silence, tous ceux qui angoissent pour l'avenir de leurs enfants, tout cela n'intéresse plus personne. Tous les ont oubliés. Ils ne comptent plus.
Et vous, du coup, aujourd'hui, ce serait quoi vos rêves ?
Mon rêve ?
Ouais.
Moi, j'aimerais vivre dans le monde des bisounours, en fait. Pas de maladie, pas de problème d'argent et tout va bien. J'aimerais bien voyager, j'aimerais bien m'acheter une voiture neuve, acheter une maison, j'aimerais bien. Mais non. Quand Jade me demande quelque chose, j'aimerais ne pas lui dire non. Mais c'est qu'aujourd'hui, moi, ma fille, des fois, elle me demande McDo, ben, je lui dis, ben, Jade, on peut pas, quoi. Jade veut faire de la gym. 290 euros l'année. Je peux pas. Peut-être que si j'aurais pas parlé français, ou je sais pas, hein. On va dire que je suis raciste, mais ouais, il y a des moments où ça monte, quoi. Il y a plus d'une fois où les larmes, elles ont coulé, quoi. Parce que, bah, non, non. À un moment, je me suis dit, elle en a marre d'entendre non, quoi. À 8 ans, ça fait 2 ans qu'elle est au courant de la situation, quoi. Et elle comprend.
Elle est à côté de vous et elle écoute tout. Et...
parce que, on lui cache rien. Pour qu'elle, elle puisse avancer et dire, moi, plus tard, je...
À partir de maintenant, on ne se laissera plus faire. On fera partir des gens, mais ouh, gentiment. Oui, c'est une grosse colère. Levons nos verres et... tra-la-la.
Nous, c'est les Français d'abord.
C'est d'abord.
Les Français d'abord.
Moi, je suis Français. Et la France appartient aux Français. Chacun pour son pays.
Nous, c'est les Français d'abord.
Français d'abord. Chacun pour son pays. Moi, je suis français. Et la France appartient aux Français.
Nous, c'est les Français d'abord.
Français d'abord. Les Français d'abord.
Et c'est ce que nous, on cherche d'ailleurs. C'est d'abord faire passer les Français. Et après, s'ils restent, ouais, effectivement, pour les autres.
Mais du coup, quand vous dites que les migrants, ils ont tout, la plupart, ils sont sans papier. Donc, ils ont pas, ils touchent pas d'aide.
Ils ont pas des aides sociales quand ils arrivent en France. Me dites pas quand ils arrivent en jet, direction Nîmes ou...
Ils arrivent surtout en bateau, en traversant la Méditerranée, non ?
Non, non. On leur ouvre les portes. Plus qu'à nous. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai bataillé pendant un an et demi avec la maladie de mon mari, qu'on n'avait aucun droit, et qu'aujourd'hui, eux, tout leur est donné. Moi, on m'a tout mis en suspens. Allocation logement, pas de CMU, rien. Alors quand après on voit que tout le monde y a le droit à la CMU, machin, ou moi je dis chapeau la France, quoi, parce que ben moi j'ai pas le droit. Pourquoi on leur trouve des logements ? Pourquoi moi on m'a pas trouvé un logement ? J'ai dû me débrouiller toute seule. Hein. Moi qu'on m'explique pourquoi. Aujourd'hui je pense que vous voyez sur Paris le nombre de SDF qu'il y a. Pourquoi on leur trouve pas de toit ? Alors qu'à eux on leur trouve tout de suite. Et il y a combien de SDF qui vont mourir encore cette année ? Moi, je suis pas d'accord. Je pars du principe que on nous aide, nous, d'abord, nous, Français. Après, ben, s'ils restent, oui, je suis d'accord. Pour l'instant, tant que les Français, ils y arrivent pas, eh ben, ça repart là-bas. Parce que je suis très mécontente que je vous dis que j'ai failli me retrouver dehors avec ma petite et mon mari malade.
Du coup, vous, c'est cette précarité dans laquelle vous vivez, de l'incertitude.
Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui vis dans une précarité. Il y a combien de personnes qui vivent dans la précarité et qui disent rien ? Ouais, les gens, ils tombent en dépression, ils se suicident et tout. Mais pourquoi ? Je vais vous dire, moi, un moment. Ouais, j'en étais arrivé que j'ai dit, bah, c'est bon, quoi. On va se mettre la cartouche et j'en parle plus. Mais ouais, mais j'ai une petite fille de 8 ans, j'ai un mari malade, je fais quoi ? Je les abandonne ? Je suis lâche ? Ben non, faut se battre.
Mais, par exemple, à l'époque de votre mère, il y avait moins tous ces problèmes. Et pourtant, elle votait aussi Front National.
Mes parents étaient racistes, de toute façon, 100%. Donc, voilà pourquoi ils votaient Front National. C'était Jean-Marie Le Pen, quoi. Et de toute façon, la première fois que j'ai voté, il m'a dit, tu vas voter Jean-Marie Le Pen.
Du coup, je peux vous demander, vous, pourquoi vous votiez Jean-Marie Le Pen à l'époque où il n'y avait pas ces problèmes de migrants, pas, moins de problèmes de précarité, on peut dire.
Alors oui, moi je veux le dire, mais parce que tout simplement, moi je suis raciste, hein, enfin j'étais raciste. Moi maintenant, et moi je dis que maintenant un étranger qui rentre en France, il faut qu'il justifie d'un travail pour avoir le droit à la CAF, aux aides. S'il n'y a pas de salaire, ils n'ont pas le droit. Point. Déjà à mon époque, bon, moi j'avais encore du travail, mais ça se dégradait quand même déjà un peu. Ben moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'en 2017 Marine passe. La seule qui peut résoudre le problème pour l'instant, c'est Madame Le Pen. Marine.
Si vous êtes là, mes amis.
Vu le salaire qu'ils ont, il y a où être dégoûté. De toute façon, je resterai sur mes positions hein, maintenant. À l'âge que j'ai, je voterai le Front National jusqu'au bout. Et encore, quand je vois que la gauche et la droite ils se mettent ensemble pour pas que le Front National y passe, quelquefois j'ai envie de leur mettre ma carte d'électeur dans la tronche. Parce que c'est pas normal. Maintenant, il y a des violeurs partout. La justice, moi je trouve que c'est plus une justice qu'on a en France. Vous allez aller voler un beefsteak, on va vous mettre 5 ans de prison. Celles qui tuent leurs gosses, on leur met 5 ans de prison. Où c'est qu'on va ? En Amérique, regardez, ils sont stricts. Il y a la peine de mort, elle existe toujours. Mais ça marche. Ils savent qu'ils ne ressortent pas. Voilà.
Mais tout à l'heure, quand on parlait des étrangers, il y en a beaucoup qu'on a fait venir dans les années 60 pour reconstruire le pays.
Oui, là, je suis d'accord. Ceux-là, c'était des gens bien. Moi, je ne suis pas raciste contre un Portugais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le savoir-vivre. Ils ont le respect de notre pays. Ils sont travailleurs. Et quand on les croise dans la rue, ils ne vous interdisent pas d'être en mini-jupe ou quoi que ce soit. On en arrive où, là, maintenant ? Ils vous crachent devant vous, c'est quoi, ça veut dire quoi ?
Vous, ça vous est arrivé, ce genre de problème, à Beaucaire ?
Pas à Beaucaire, sur Arles. Non, parce qu'ici, même si c'est des jeunes, j'ai vu qu'ils nous ont déjà aidé à des déménagements. Donc déjà, il y a un peu plus de civilisation ici. Mais il y en a qui ne veulent pas travailler. Et il y en a plus qui vivent à nos crochets que ceux qui travaillent. La France, c'est devenu une poubelle, quoi.
Et vous, votre prénom ?
Moi, c'est Laurence.
Et vous, vous êtes à la retraite maintenant ?
Non, toujours pas, non, non.
Vous travaillez dans quoi maintenant ?
Je ne travaille pas. Je ne peux plus travailler, je fais des bronchites chroniques. Je manque de respiration, au bout d'un quart d'heure, je ne peux plus rien faire.
Quoi ? Je fume. Bah oui, je sais que tu fumes.
Nous, au Bloc National, on n'a jamais été au pouvoir. On n'est pas corrompu par le système. On dit ce qu'on pense. La France est dans les ténèbres. Elle a besoin d'un vrai chef.
Je suis la seule opposition à cette caste. La seule opposition à l'UMPS. La seule opposition à tous leurs relais politiques, médiatiques et corporatistes.
Vous vous appelez comment ?
Jean-Marc.
C'est tout récent, vous vantez Front National ?
De toute façon, on a essayé le PS, j'en ai été. Puisqu'on a tout essayé, qu'il n'y a rien qui a été. Il n'y a rien qui nous interdit, nous, Français, après tout. Hein, on dit, allez, on essaye, et si ça ne va pas, ben de toute façon, ça dure 5 ans. Et si vraiment ça ne va pas, si vraiment Marine ne fait pas ce qu'elle a dit, eh ben, on se remonte les manches, et puis on a le droit de changer de gouvernement. Hein. Puis alors là, après, il faut trouver autre chose. Mais quoi aujourd'hui, j'en sais rien. Je vous dis, pour être un ancien 68 ans, j'y étais parce que les briques que je les ai balancées, il faut recommencer ce genre de truc, quoi. Il faut y aller. Voilà, point.
Vous en voulez pas ?
Ouais, allez, Pierre, je vais filer, je vais vous laisser.
On leur donne les mosquées, on leur donne le droit de porter le voile.
Nos églises, elles se dégradent.
On leur donne tout, quoi. C'est de l'abus. Monsieur Sanchez a fait réparer l'église de Beaucaire. Il l'a fait repeindre, il a refait le crépi et tout ça dessus. Alors la preuve qu'on a un maire qui est du Front National qui est formidable. Il fait plein de choses. Là, on a vu cet été, on a eu des animations. On a eu Catherine Marat, on a eu les années 80, on a eu... Il y a le marché tous les vendredis soirs. Ça a été un mois de juillet, un mois d'août, rempli. Juillet, août, si vous voulez pas vous ennuyer, venez à Beaucaire. Donc moi je dis, si nous on est content de notre maire, Eh ben, les Français seront contents de Marine. Rien que quelques fois des animations, parce que c'est gratuit en plus. Hein. Eh ben, si tous les gens, ils pouvaient au moins profiter de ça, eh ben, ça remet un petit baume au cœur quelquefois. Même si vous n'avez pas d'argent, ça ne vous empêche pas d'aller voir un chanteur chanter.
Heureusement qu'il y a des choses comme ça. Voilà.
Vous allez profiter un peu du soleil de Beaucaire.
Ouais.
Du sud, vous voyez comment on est bien quand même.
Au revoir, Jade. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Nous avons choisi ce matin de recevoir Julien Sanchez, maire Front National de Beaucaire.
Bonjour monsieur le maire de Beaucaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ma commune sans migrants, ça fait beaucoup parler. Ça fait un peu slogan d'ailleurs, hein. Vous allez le mettre sur des dépliants touristiques, sur des banderoles à l'entrée de la ville.
Ah bah ça amènerait peut-être du monde, oui, hein, c'est sûr, parce que les Français sont très opposés à l'immigration massive qu'on nous impose actuellement.
On est de retour à Paris. On va aller rencontrer l'historienne Valérie Gounet, qui est spécialiste de l'extrême droite. Merci. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter ?
Donc je suis Valérie Gounet, je suis historienne et depuis une vingtaine d'années je travaille sur entre autres l'histoire du Front National, oui. Oui, je crois que Sabrina elle montre bien aussi ce qu'on pourrait appeler une évolution du vote Front National. C'est une personne qui se défend de tout racisme et en même temps, elle développe totalement un discours raciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme est banalisé. On se dit sans trop de problèmes aujourd'hui du Front National, alors que c'est vrai que je trouvais quand même qu'avant on avait beaucoup plus, en tout cas de mal, à l'affirmer et à l'assumer. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il y avait une libéralisation de la parole et aussi du vote FN, en tout cas, il y a une certaine fierté qui se dégage au sein de ce milieu des militants. Et c'est vrai que je pense que là, Marine Le Pen a aussi fait évoluer entre guillemets les choses. Et justement, cette France des oubliés à laquelle Marine Le Pen dit s'adresser, c'est aussi une France des femmes, des hommes qui se sentent rejetés d'un système politique. Et ça, faut pas l'oublier, à l'écart d'autres. C'est-à-dire qu'évidemment, on vote Front National pour des idées avant tout. Mais il y a aussi une désespérance dans la vie, mais aussi dans la politique. Ils n'y croient plus. Et pourquoi pas aussi croire en cette femme, en cette présidente du Front National ? Elle a réussi, en tout cas dans certains territoires, à être follement aimée. Alors après, évidemment que le racisme, je le redis, est prégnant dans leurs propos. Mais ce qui est important, c'est pourquoi il l'est et comment aussi on peut instrumentaliser ses électeurs. Quand on lit, par exemple, la charte des migrants, qui a été créée par Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, et qui a été adoptée, hein, par Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, on entend ces propos-là, c'est-à-dire des personnes qui sont privilégiées, les migrants entre guillemets, aux dépens des nationaux, des Français, quoi. Il y en a qui galèrent, ce sont les Français et les nationaux, évidemment que je répète le discours du Front National, et il y en a qui ont des droits, des privilèges, et ce sont les migrants, et évidemment qui veulent inverser cette balance, mais depuis toujours. La base de ces campagnes anti-immigrés, elle existait au tout début des années 70. Les faits sont différents, c'est tout.
Moi qui disais il n'y a pas 20 minutes encore qu'on en avait fini avec les Trumperies, rappelons juste que depuis les années 2000, le nombre d'étrangers qui entrent chaque année sur le territoire français représente moins de 0,5% de la population française.
Et disons aussi que c'est une vieille ficelle que d'opposer deux misères, que de faire croire qu'on refuse l'accueil des migrants, ça irait mieux pour nous. Merci en tout cas à Sabrina et à sa famille. Et merci également à Valérie Igounet qui publie ces jours-ci deux ouvrages, Les Français d'abord aux éditions Inculte et L'Illusion nationale, deux ans d'enquête dans les villes FN, avec le photographe Vincent Jarousseau aux éditions Les Arènes.
Alors Charlotte Perry nous a fait écouter les voix du FN et ses fantasmes. On est chez nous, un peu de réel maintenant avec Antoine Chao qui nous emmène voir quelles sont les voix de l'accueil chez nous.
Et la voix, c'est dans une bulle. À Paris en tout cas, une bulle gonflable posée porte de la chapelle. Alors ce matin, ça y est, les portes s'ouvrent. Alors la centaine de réfugiés qui étaient là ce matin, qui avaient fait la queue toute la nuit, sont rentrés.
Non, ça c'est, on jette ça.
Ouais. Dans la bulle, c'est mettre au chaud.
Dans celle-là, on va mettre ce qu'on garde.
Et les bénévoles d'Utopia 56, alors trient les couvertures, les rangent, pour que ça reserve. Accueil ou non accueil, malgré l'ouverture du centre humanitaire Paris Nord, il y a un peu plus de deux mois, du côté de la porte de la chapelle, la question reste entière. Après le démantèlement de la jungle de Calais, la chasse au campement informel parisien et l'arrivée de la vague de grand froid, comment l'État honore sa responsabilité constitutionnelle de mettre à l'abri les personnes migrantes ? Eh bien, c'est souvent grâce à des associations, des collectifs, des simples citoyens que la situation ne vire pas au drame. Une façon de dénoncer et de pallier aux carences de l'État en matière d'hospitalité. Un manque de moyens et de volonté politique pour accueillir dignement ceux qui demandent la protection de la France quand ce n'est pas le délit de solidarité qui est brandi pour dissuader ceux qui s'engagent pour le respect et le droit des êtres humains.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Pour l'accompagnement à Debré, il faut d'abord qu'on vérifie s'il va au demi ou non. S'il ne va pas au demi, il va falloir l'accompagner. S'il va au demi,
porte de la chapelle, entre le boulevard Ney et le boulevard périphérique, il y a un chapiteau, enfin une bulle plutôt, blanche, jaune et grise. Et c'est l'entrée du centre d'accueil de la mairie de Paris, le centre d'accueil de la chapelle. Centre humanitaire Paris Nord, dispositif de premier accueil. Accueil, information et orientation des personnes primo-arrivantes. Bienvenue.
Rémi, bon, il est à côté de toi ou pas? Est-ce que tu... c'est aujourd'hui que tu irais avec France Inter?
Ben, j'y vais, j'arrive.
Ok, merci, il est à côté de moi, il entend. Yann, est-ce que tu pourrais appeler Emmanuel, j'ai encore un mineur, s'il te plaît. Ah, mais ils arrivent tous d'un coup aujourd'hui, quoi. Dès qu'on a un, on reste tranquille. Est-ce qu'il y a encore ça? Mais il est pas mineur, mais...
C'est pas sûr que tu puisses rentrer pour dormir ce soir. Hein. Tu vas pouvoir rester pour la journée, mais là il est plein le camp. Tu pourras rester jusqu'à 10 jours maximum. Et après tu seras transféré dans un autre endroit. Où tu resteras longtemps, jusqu'à ce que ta procédure soit faite et tout ça. Tu restes là ?
Et vous êtes arrivé quand à Paris ?
Ça fait deux semaines, trois semaines.
Deux semaines. Et vous habitez dans la rue ? Vous habitez où ?
Je suis tout le temps dans la rue.
Tout le temps dans la rue ?
Même sous ce pont là, des fois dans les gares.
Et là vous voulez rentrer dans la bulle, c'est ça ?
Ouais.
Bah ouais. Et comment ça se passe alors? Il faut s'inscrire? Vous avez un numéro ou c'est juste pour passer la journée?
Non, je vais m'inscrire.
M'inscrire, ouais.
Chercher à,
à suivre la procédure.
Ma demande d'asile.
Je m'appelle Yvan Leray, je suis coordinateur Utopia 56 Paris.
Alors Yvan, on est devant le centre d'accueil Paris Nord, c'est ça, c'est quoi exactement ici?
Concrètement, c'est le premier centre pour primo-arrivants en France. C'est-à-dire qu'avant, les migrants, quand ils arrivaient à Paris, ils étaient dans la rue sans savoir où manger, où se loger, où avoir accès aux soins, où pouvoir faire sa demande d'asile, hormis France Terre d'Asile qui était complètement bouchée. Aujourd'hui, ils arrivent à Paris, ils se présentent ici. Une fois qu'ils sont à l'intérieur du centre, ils ont tous ces services et ils peuvent trouver tout ça au sein d'un même endroit.
Alors là, il y a une petite centaine là, de personnes qui sont devant. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, il y a quelques petits rayons de soleil, il fait froid quand même. Mais comment ça se passe alors? Les gens arrivent tous les matins, il y a une prise en charge quotidienne d'un certain nombre de demandeurs d'asile?
Alors concrètement, non, les gens généralement dorment ici, puisque il y a 50 prises en charge en moyenne par jour, 6 jours sur 7, en sachant que c'est les 50 premiers de la file qui sont pris en hébergement. Donc voilà, il y a cette compétition à savoir de « il faut que je garde ma place » puisque si je ne suis pas dans les 50 premiers, bah, je serai encore dans la rue ce soir ou demain, ou etc. Donc voilà, les gens restent dans la file pour pouvoir espérer être hébergés.
C'est être hébergé et c'est mettre en place tout le processus de demande d'asile.
Concrètement, c'est ça. C'est passer 5 à 10 jours ici en ayant de l'information juridique puisque il y a des travailleurs sociaux d'Emmaüs Solidarité qui sont présents dans la bulle et qui, dès l'entrée dans le centre, leur font un entretien pour pouvoir avancer. Et ensuite, ils vont être orientés soit vers des CHU pour les gens qui ont déjà laissé leurs empreintes dans d'autres pays d'Europe en attendant de savoir s'ils vont être envoyés ou pas. Et si jamais ils ne sont pas renvoyés, ils seront ensuite envoyés vers des CAO, centres d'accueil et d'orientation, pour continuer le cheminement de demande d'asile classique en France, au bout de 5 à 10 jours. Alors malheureusement, de la même manière qu'il y avait des files d'attente devant France Terre d'Asile, aujourd'hui, le nombre de prises en charge n'est pas suffisant pour pouvoir entamer son process d'asile en France.
No open.
Je viens d'Afghanistan.
Vous êtes parti quand d'Afghanistan?
3 years ago.
Ça fait 3 ans.
I come to Iran.
D'abord, je suis passé par l'Iran. Puis j'ai traversé l'Iran jusqu'à la frontière turque.
In the Turkey, we was walking in the mountain, and after we all come to Istanbul.
On a marché dans les montagnes jusqu'à Istanbul. Puis après 2 mois, j'ai pris un bateau pour la Grèce. Jusqu'à Mytilène, sur l'île de Lesbos, où je suis resté 4 mois. Puis j'ai passé 8 mois à Athènes, avec d'autres réfugiés dans un camp, pour faire traduire les papiers. J'ai vécu 1 an en Grèce.
Et après, je suis venu à Macédonie, j'étais 5 jours en Macédonie, il m'aidait.
Puis je suis allé en Macédoine, puis 1 mois en Serbie,
after I've come to Slovenia,
puis 2 mois en Slovénie,
Slovenia,
d'où j'ai pris un bus pour la Slovaquie. Et de là, en Autriche, puis en Allemagne, toujours en bus. Je suis resté 1 an et demi en Allemagne, mais je n'ai pas eu la réponse pour mes papiers. Alors je suis venu en France. Et là, j'attends de pouvoir entrer à l'intérieur. Remplir des papiers et trouver un endroit où dormir et de quoi manger. Ça fait 5 jours que j'ai pas dormi. 5 jours. On a vraiment besoin d'un endroit où dormir. Il fait tellement froid.
-4, -5 degrés
la nuit. Si froid. Alors j'attends qu'ils ouvrent les portes pour entrer. Et je sais pas. Peut-être ils peuvent nous aider. Peut-être ils peuvent nous sauver. J'ai 18 ans.
18. Et le mois prochain, j'aurai 19.
And next month I go to 19. And I don't know, they can't help us and they can't save us.
Yeah. From Aleppo to Lesbos, to God knows or may not, to ice cold death hole, skinheads giving speed knots, heat not, keep walking, Merkel, keep talking, Obama hollering, bombing with Putin on the loose ends. From Uganda to Burundi, Somalia to Tripoli, folks are strictly trying to get home, B. Simply, you rip out the soul of a country, souls will follow the soul till they're whole again.
Le soir aussi, c'est un peu compliqué parce que, bah, par exemple, il y a 2-3 jours, ils les ont délogés de sous le pont parce qu'il y avait un petit camp qui se reformait.
D'accord.
Donc les CRS les ont délogés et ils leur ont demandé de se remettre tous là, en fait. Sauf que, ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'ils les délogent, mais ils n'ont pas de solution pour eux. Donc il faut bien que ces personnes, ils aillent quelque part, quoi, en attendant. Sauf qu'ils leur demandent d'aller là. Et nous, on s'en va vers 21h, 22h, et une fois qu'on est parti, il est redéloge, quoi. Vous pouvez pas rester sur la voie publique toute la nuit, tout ça. Donc les gens, ils vont où, quoi? C'est un peu compliqué avec les forces de l'ordre.
Parce que là, il y a des barrières Vauban, c'est ça? Donc il y a un barrière âge, et ils dorment. Donc il y a des tentes de fortune, hein, qui sont installées là sur les barrières avec des couvertures, etc.
Ouais, en fait, ils installent un petit campement de fortune, là, en espérant... être les premiers demain matin dans la file quand ça va ouvrir, quoi. Après, malheureusement, nous, on n'est pas là la nuit pour voir ce qui se passe, mais il y a certaines nuits où les forces de l'ordre viennent et leur demandent de partir. Donc du coup, ils ont attendu toute la journée là en espérant être les premiers pour demain matin et finalement, ils vont devoir partir. Donc,
C'est Utopia 56 qui gère cette entrée, quoi, ce moment un peu compliqué, quoi, difficile, tendu.
Ouais, Utopia 56, c'est Emmaüs. Je m'appelle Gwen et du coup je suis bénévole à Utopia. Pendant mes vacances, je viens donner un coup de main sur le camp humanitaire et puis j'habite à Rennes. Je travaille dans un centre social et je suis mobilisée aussi dans une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile aussi.
Alors comment ça se passe ce matin ici devant le centre d'accueil, le centre humanitaire Paris Nord?
Alors du coup, ce matin, il y a une cinquantaine de personnes qui sont rentrées pour l'accueil, pour l'hébergement. Et donc, à l'intérieur de la bulle, ils sont en train de faire les entretiens individuels. Donc ça prend un peu de temps. Donc quand les entretiens individuels des personnes qui seront hébergées ce soir seront terminés, ils ouvriront la bulle pour faire accueil de jour les personnes qui attendent devant.
Donc là, il y a quelques dizaines de personnes du coup qui attendent pour se mettre au chaud, c'est ça ou...
Bah là, du coup, il y a, ouais, c'est ça, il y a une quinzaine de personnes qui attendent pour l'accueil de jour. Et puis, il y a les personnes qui sont rentrées hier, avant-hier, qui reviennent aussi nous dire bonjour, voir si leurs amis sont toujours devant aussi. Donc, ils sont là aussi dehors avec nous un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Là, il fait très, très froid et on passe nos journées dehors avec eux, nos soirées aussi. Mais à côté de ce qu'eux, ils ont vécu, je pense qu'on peut donner un peu de notre temps et passer une ou deux journées dans le froid. C'est rien à côté de ce qu'eux, ils ont vécu et ce qu'ils ont traversé pour pouvoir en arriver jusqu'à nous, en fait, quoi. Et puis, ce qui nous réchauffe le cœur, c'est de voir des petites mobilisations de citoyens qui viennent le soir distribuer des repas tous les jours. C'est des personnes différentes qui se mobilisent autrement, en fait. Et ça, c'est réconfortant aussi. On se dit qu'on n'est pas seul et que ça bouge quand même autour aussi, quoi.
Et ce dispositif de premier accueil ici, Porte de la Chapelle, vous en pensez quoi?
Alors, je pense que c'est un bon début, mais je pense que c'est pas assez. Il n'y a que 400 places et il y a... Enfin, on peut pas, estimer le nombre de personnes déjà sur, rien que sur Paris. Enfin, on voit bien hein, tous les jours, il y a que 50 personnes qui rentrent et finalement il y en a 50 autres qui restent dehors. Et comme on est là tous les jours, on voit les mêmes têtes des fois pendant 3 jours d'affilée et on se dit que ça avance, mais lentement quoi. Mais c'est déjà une bonne chose. Et du coup, j'espère que les personnes qui ont passé les 10 jours dans le camp humanitaire, une fois qu'ils sont transférés, trouvent aussi un bon accueil là où ils sont transférés et puis un bon suivi de la part des travailleurs sociaux et des associations en province quoi.
Ils veulent aller où en général ?
La plupart souhaitent rester en France et ce qui est compliqué, c'est les personnes qui sont passées par d'autres pays et qui ont laissé leur empreinte dans d'autres pays européens et qui apprennent en France... ils pourront pas faire leur demande d'asile puisqu'ils sont passés par l'Italie ou l'Allemagne et qu'ils ont déjà fait une demande d'asile là-bas. C'est un peu dur pour eux. Et la plupart, ils veulent vraiment rester là, poursuivre leurs études ou reprendre le travail qu'ils avaient dans leur pays. Et apprendre le français, beaucoup. Ils sont vraiment, vraiment demandeurs. D'ailleurs, il y a même des cours de français qui ont été improvisés à l'intérieur, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et ils sont demandeurs et...
pour rentrer dans la bulle, la fameuse bulle d'accueil, le sas d'entrée pour commencer les démarches. Il y a une porte tourniquet. Voilà. Alors sous cette bulle, c'est très bizarre parce qu'il y a les voix qui se mélangent, qui rebondissent sur la toile tendue. Et on entend donc des bribes de voix, des voix un peu de partout dans le monde, mais surtout de Somalie, du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, d'Afghanistan en ce moment. Monsieur, la voix qui porte.
Voilà. Mais là, t'as une bonne réverbe. D'où l'intérêt de ne pas dire du mal de ses collègues, parce qu'ils entendent tout de l'autre côté. Je fais attention. Ramdan Aboubakar. Fadda. Attends. Tu veux un traducteur algérien.
Et c'est comme un grand chapiteau, très lumineux. Il y a un bloc de containers au milieu, des petites tables. Un comptoir avec des chargeurs pour recharger les téléphones. Vous êtes responsable de vos affaires, Centre humanitaire Paris Nord, et il y a tous les téléphones qui chargent sur ce petit comptoir. Ce pôle d'accueil est ouvert tous les jours de la semaine de 8h à 20h. Vous rencontrerez des personnes qui vous orientent vers le dispositif adapté à votre situation. Vous pouvez vous reposer, prendre un café et une collation, recharger vos téléphones portables, vous connecter à Internet. Vous informer sur les dispositifs d'accueil et de demande d'asile en France.
Mélina, vous avez présenté Mélina ?
Mélina, Mélina.
Je peux vous poser 2-3 questions ?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.
Moi, je suis en comité.
Je peux vous juste vous demander, on reste à 95. C'est ce qui est sur le Jeep.
Oui.
30 avec rendez-vous et...
Faites-moi 75, si vous pouvez. C'est pas grave.
Je vais vérifier, on arrête maintenant.
Faites 95 heures. Faites 95. J'ai 30 départs et lundi matin, je dois avoir 25 départs. Parce que les 50 entrées de lundi matin, c'est assuré.
Donc 95, on reste. Allez. Et on dépasse surtout
pas. 90 et 5 vulnérables. Ou 90, s'il vous plaît.
Donc Mélina Mikoulo, je suis chef de service sur la bulle, donc la partie accueil de jour du centre de premier accueil. Donc en fait, toutes les personnes qui se présentent, donc on a des médiateurs qui sont dans la rue, qui repèrent les personnes vulnérables, qui gèrent aussi la file d'attente pour expliquer aux gens comment on travaille, ce qui va être fait, pour que ça se passe le mieux possible devant le centre, sachant qu'aujourd'hui c'est assez calme, mais il peut y avoir beaucoup de monde dans la rue qui attendent à l'ouverture du centre. Ensuite, une fois qu'ils entrent, ils passent tous par l'accueil pour donner leur nom, leur prénom, et qu'on puisse savoir aussi quelle langue ils parlent pour éventuellement faire intervenir des interprètes quand il y a besoin. Et ensuite, donc vous voyez que la bulle est divisée en deux, avec d'un côté les hommes isolés et de l'autre côté les vulnérables, donc les familles, les couples, les femmes seules et les mineurs isolés étrangers qui peuvent venir sans être accompagnés.
Il y a l'accueil de jour ici sous la bulle, mais il y a aussi après derrière donc le centre d'hébergement, mais et tout le monde passe par ici et après dispatché selon l'heure d'arrivée, le rendez-vous, etc. Comment ça se passe?
Nous, en fait, on va évaluer les situations, on va informer les personnes aussi sur leurs droits. Donc pour les hommes isolés qui peuvent éventuellement accéder à un hébergement de l'autre côté, donc c'est là où il y a deux services. Il y a la bulle qui est la partie accueil de jour, évaluation des situations, et ensuite dans la cour, vous avez vu, il y a la halle, donc qui est la partie hébergement avec actuellement 400 places pour des hommes isolés, 400 places d'hébergement temporaire, le temps que l'État puisse leur donner une place dans d'autres dispositifs plus pérennes. Donc du coup, quand les personnes arrivent ici, on va évaluer leur situation et si elles relèvent des critères au niveau de la demande d'asile, etc., qu'elles n'ont jamais été hébergées par l'État, elles peuvent entrer dans le dispositif hébergement, mais forcément l'évaluation se fait ici à la bulle et c'est nous ensuite qui orientons vers la halle. Pour la partie vulnérable, que ce soit les familles, les femmes, les couples et les mineurs, là, c'est des orientations qui se font en externe. Donc pareil, on évalue la situation pour pouvoir orienter les personnes vers les dispositifs adaptés, soit pour les familles, soit les femmes seules, soit les mineurs.
Et les gens que vous accueillez, ils arrivent dans quel état ils sont?
Là, on est vraiment dans l'urgence. Les personnes, elles arrivent, elles ont les jours d'errance, les nuits d'errance à la rue en France, mais elles ont aussi tout leur parcours d'errance depuis leur pays. Les pays que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit quand elles viennent d'Afghanistan, d'Érythrée, de Somalie, du Soudan, voilà, ils viennent pas de quitter leur pays. Donc, c'est des personnes qui ont des mois, voire des années d'errance, qui ont traversé des pays et voilà, qui ont été dans des situations extrêmement dures, en plus des situations qu'ils ont vécues dans leur pays. Donc, forcément, il y a des psychotraumatismes qu'on peut déjà ressentir ici et qui vont aussi se manifester une fois qu'ils seront posés dans un hébergement d'une autre manière. C'est pour ça que le pôle médical est extrêmement important, que toutes les personnes qui passent par la halle peuvent, si elles le souhaitent, être vues par un infirmier, un médecin. Il y a des psychologues aussi qui interviennent. Mais aussi physiquement, c'est des gens qui sont extrêmement cassés, qui sont extrêmement fatigués, qui sont usés par ce qu'ils ont vécu. Quand on les voit, c'est une des premières demandes. Souvent, ils nous demandent l'hébergement, mais ils nous disent aussi « je suis malade ». Ça revient. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est des personnes qui sont extrêmement cassées et par ce qu'ils ont pu vivre et qui sont malades parce qu'ils ont dormi dehors dans la rue et que voilà, il fait froid. Mais aussi qui ont tous les traumatismes liés à leur parcours qui viennent s'ajouter à tout ça. Ouais.
Et vous, Mélina, ça fait longtemps que vous travaillez donc pour Emmaüs Solidarité. C'est quoi votre parcours pour arriver aujourd'hui à être ici, devant la porte, à accueillir donc tous ces gens qui sont en souffrance?
Donc moi, je suis juriste de formation, j'ai un master 2 en droit de l'homme, droit humanitaire. Donc c'était déjà orienté quand même. Après, j'ai toujours travaillé avec des demandeurs d'asile, donc au départ comme juriste et ensuite dans un accueil de jour qui accompagnait des demandeurs d'asile. Et donc là, j'ai rejoint l'équipe du centre de premier accueil au mois de décembre.
Ça vous satisfait comme réponse à cette problématique?
Je suis pas satisfaite dans le sens où si le système fonctionnait vraiment bien, l'hébergement des demandeurs d'asile est la compétence de l'État et ils devraient être, dès lors qu'ils entament leur démarche de demande d'asile, ils devraient pouvoir être pris en charge tout de suite et ils devraient même pas, nous on ne devrait même pas exister dans le meilleur des mondes. Après, malheureusement, je pense que vu la situation et tous les campements où on a pu voir des personnes dans des situations sanitaires, enfin, j'allais dire grave, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, c'était plus que de l'urgence. Je pense que c'était inadmissible et qu'effectivement, on répond en partie à ce problème-là. Mais nous, tout seuls, on n'est pas suffisant. Avec 400 places, on ne pourra pas répondre, même si ça fonctionne. On voit bien que c'est insuffisant. Donc à partir du moment où il n'y aura pas d'autres moyens qui sont débloqués, et je suis convaincue que l'intégration des personnes, elle se fait dès leur arrivée en France. Donc leur donner les moyens d'être bien accueillis, c'est aussi leur offrir un parcours d'intégration qui sera le meilleur possible pour que ces personnes qui ont vocation à rester, puisque de toute façon, si elles obtiennent une protection, elles resteront, qu'elles ne se précarisent pas et qu'elles puissent le plus rapidement possible être intégrées dans la société française. Et ça passe par leur accueil, je pense. Donc effectivement, oui, ce dispositif y répond en partie. Après, j'aurais pas la prétention de dire que c'est suffisant. Mais en tout cas, c'est mieux que quand on n'existait pas, je pense. J'en suis convaincue, sinon je travaillerais pas là, je pense. Moi, je suis une fervente défenseuse du droit du demandeur d'asile. Donc pour moi, demander l'asile, c'est un droit. Et on peut fermer les frontières, c'est des personnes, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles passeront, elles se mettront davantage en danger. Elles paieront plus cher des passeurs qui exploiteront leur misère et les problèmes qu'ils ont. Mais de toute façon, elles passeront, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire. On peut toujours se mettre la tête dans un trou et se dire, de toute façon, on va fermer les frontières et ça résoudra le problème. Tant qu'il y a des guerres dans le monde, les personnes arriveront. Donc il y a un moment où qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour arrêter de voir ces questions de la migration comme un problème. Des enfants, ils doivent être éduqués, des personnes âgées, elles doivent être soignées, et les migrants, ils sont là, ils doivent être intégrés. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. C'est une vraie richesse et on a besoin de ces personnes et elles sont là de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on fait pour vraiment leur permettre de rester dans des bonnes conditions? Ben, moi, ça me paraît une évidence, mais a priori, ça ne l'est pas pour tout le monde et peut-être que ça demande un petit peu de courage politique aussi d'accepter d'arrêter de voir ça comme un problème. Enfin ces questions comme un problème, hein, pas les personnes.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Retrouvez toutes les informations sur les sites de l'émission à l'adresse franceinter.fr, où vous pourrez aussi vous abonner au podcast. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.